Retour sur le parcours de la proposition de loi organique pour le report des élections provinciales. Le texte sera examiné en début de semaine prochaine en commission mixte paritaire. Vous entendrez le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Un salon très très attendu par les professionnels du secteur. En pleine crise du BTP, le salon Batexpo ouvre ses portes ce matin, baie de la Moselle. Astérix en Lusitanie, le 41e album d'Astérix est sorti et il est déjà disponible sur le territoire. En métropole, la suspension de la réforme des retraites inscrite dans le projet de budget, la lettre rectificative annoncée par le Premier ministre a été validée lors d'un conseil des ministres spécial. La mairie de Marseille annule la projection du film Sacré-Cœur dans une salle municipale. Le co-réalisateur du film, Steven Gunnel, que vous entendrez, est très en colère. Et puis en sport, du football, victoire de Lyon, défaite de Lille et de Nice et match nul pour Strasbourg. Nous ferons le point sur les compétitions européennes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un magazine dans lequel vous recevez cette semaine Mila Kouloutou-Koumouli.
Oui, c'est le président de l'Éveil Océanien qui sera l'invité du magazine Transparence. Il sera interrogé bien sûr sur l'actualité politique calédonienne et elle est dense sur le cheminement législatif de la loi sur le report des provinciales, sur le projet de loi constitutionnelle et plus globalement sur l'accord de Bougival, sur la difficulté de sa mise en œuvre et notamment sur l'attitude du FLNKS. On se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de Mila Kouloutou-Koumouli.
Et l'autre rendez-vous politique du vendredi, c'est bien sûr le club politique, c'est à 16h45.
Et au sommaire de ce club politique, le cheminement, là encore, de la proposition de loi sur le report des provinciales et la réaction du FLNKS qui déclare ne plus vouloir revenir à la table des discussions. Nous évoquerons aussi la demande de démission du président du gouvernement formulée par le groupe UCF-LNKS et nationaliste. Nous reviendrons sur les déclarations de Manuel Valls qui continue à s'épancher dans les médias. Et puis nous dirons un mot également de la nomination de l'ancien haut-commissaire Patrice Faure qui est devenu préfet de police de Paris. Un club politique qui, vous le disiez, commence cet après-midi à 16h45.
Un subterfuge pour contrer la stratégie de la France insoumise. Le député Nicolas Metzdorf est donc revenu ce matin sur la technique mise en place par les députés de la majorité pour contourner les quelques 1600 amendements qui avait été déposé par LFI sur la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales, une manœuvre d'obstruction qui visait à empêcher le report du scrutin. Avec son collègue Vincent Corr, Nicolas Metzdorf a donc déposé une motion de rejet préalable qui a renvoyé le texte en commission mixte paritaire. Et personne n'a rien vu venir, nous a dit le député de la première circonscription.
Personne n'a rien vu, on a travaillé ça toute la nuit. Un petit groupe de députés bien aguerris du groupe Ensemble pour la République ainsi que les techniciens de l'Assemblée nationale. On a utilisé plusieurs leurres d'ailleurs que j'ai lancées dans les médias en disant que j'allais faire des amendements de suppression et donc qui laissaient à supposer qu'on allait étudier quand même les amendements. Et donc on a déposé cette motion de rejet quelques dizaines de minutes avant l'examen du texte de manière à ce que la France insoumise n'ait pas le temps de réagir. Donc voilà, c'est de la cuisine politique tout ça, mais c'est des choses qui sont parfois utiles quand on veut essayer de faire les choses correctement pour la Nouvelle-Calédonie.
Après le renvoi du texte, la commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, va se réunir lundi pour adopter la proposition de loi. Mais tout n'est pas fini pour autant. Il reste un dernier obstacle à franchir.
Ça va être adopté en commission mixte paritaire parce qu'on a une large majorité grâce aux sénateurs de droite du Sénat, évidemment. Et ensuite, il y a un dernier round, et c'est sur celui-là qu'on travaille, c'est que le résultat de cette commission mixte paritaire doit être validé par un vote à l'Assemblée nationale, sans possibilité d'amendement, mais on doit quand même tous voter. Et donc là, il faut quand même retrouver une majorité pour faire voter ce texte. On sait que le RN est très hésitant, donc il y a des pourparlers en ce moment, ouais.
Il faut donc convaincre le Rassemblement national pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors du vote solennel qui est prévu mardi à l'Assemblée nationale. Si le texte est adopté, il pourra être promulgué à la fin de la semaine prochaine. Et le député Nicolas Metzdorf tient à insister sur les raisons de ce report des élections provinciales.
Si on va aux élections provinciales en n'ayant pas d'accord, avec des tensions sur la question du corps électoral, avec des positions qui vont se radicaliser, avec forcément derrière, après ces élections, un temps très long avant de se revoir et puis de repartir à zéro sur un accord, la Nouvelle-Calédonie va énormément souffrir. Donc si on fait tout ça, c'est pas parce qu'on est dans une guérilla politique entre groupes parlementaires ou entre pro-Bougival et anti-Bougival. On essaye de prendre la meilleure décision possible pour que la Calédonie se relance.
Et le député de la première circonscription estime que désormais on est près du but. Il se dit un peu surpris et déçu par l'attitude de l'UCF-LNKS qui a déclaré hier qu'il ne voulait plus revenir à la table des discussions.
Quand on est le FLNKS, on ne dit pas qu'on ne veut pas revenir à la table des discussions, parce que je pense que c'est se comporter en irresponsable quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je ne sais pas qui aujourd'hui dirige ce FLNKS, qui décide. Donc, je les encourage à faire un peu plus preuve de responsabilité, comme le fait très bien l'Uni Palika. Donc je comprends qu'ils soient déçus du vote de l'Assemblée, mais c'était nous sous-estimer que de croire qu'on allait laisser passer les choses comme ça. Maintenant, nous, on est dans un discours de responsabilité. Je l'ai fait publiquement hier envers mon collègue Tshibau pour que l'ensemble des Calédoniens, mais aussi l'ensemble de la représentation nationale, puissent entendre que nous, les non-indépendantistes, on a toujours eu la main tendue et que ce n'est pas nous qui refusons le débat, qui refusons le dialogue, les discussions et la recherche de solutions, mais que c'est bien l'UC soutenu par la France Insoumise.
Nicolas Metzorf qui était au téléphone en direct depuis Paris ce matin, une interview à réécouter en podcast sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Approuvez-vous l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion préalable de rejet pour contrer l'obstruction des députés de la France insoumise à la loi sur le report des élections provinciales? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas trouver normal que des détenus du camp Est fassent un recours contre l'État pour protester contre leurs conditions de détention. Ils sont 14% à dire à l'inverse qu'ils trouvent ces recours normaux. Un nouveau conseil municipal hier à Dembéa. Deux décisions modificatives du budget étaient notamment à l'ordre du jour. Charlotte Coulson, les débats ont été par moments tendus.
Oui, la commune a reçu plusieurs subventions de l'État destinées à la reconstruction de la ville, ce qui a conduit l'équipe municipale à faire des réajustements dans les budgets principaux et annexes, au profit notamment, comme l'explique le maire Johan Lecourieux, de certaines infrastructures sportives.
C'est pour intégrer les recettes, l'aide de l'État à la reconstruction sur les différents équipements publics qui ont été démolis, que la ville reconstruit avec l'aide de l'État. Ça permet surtout de pouvoir reconstruire dans des délais assez courts les équipements, notamment sportifs ce soir, mais aussi d'autres équipements que nous avons sur le territoire. Et tout particulièrement ce soir, l'équipement sportif qui est sur le parc d'Almas aujourd'hui pour les rugbyman et les footballeurs.
Deux décisions modificatives du budget qui ont été adoptées à la majorité sans les voix du nouveau groupe d'opposition, les loyalistes, le Rassemblement d'Imbéa. Les échanges ont d'ailleurs été tendus entre le maire et ce nouveau groupe mené par Cynthia Jean. Il reprochait notamment à Yuen Lecourieux son manque de transparence sur plusieurs points abordés en séance.
Ce soir, notamment, ça a été particulièrement flagrant. Par exemple, sur la question des concessions électriques, le maire n'a pas réussi à nous expliquer pourquoi il avait une nouvelle fois coupé la ville en deux, avec d'un côté une attribution EEC, de l'autre Enercal. Pas de réponse non plus, question très importante sur le paiement de la cotisation à l'Association française des maires par la mairie de Dimbéa. Rien non plus sur des projets importants, de bâtiments détruits pendant les émeutes, dont on nous a dit qu'il y avait eu un accord de l'État, mais sans précision sur quel projet, où, comment, pourquoi. Et puis, globalement, on regrette quand même un ton toujours très condescendant à notre égard. Nous sommes des élus de la ville de Dimbéa, élus par des électeurs, donc on estime qu'ils ont droit à la considération. Et ce n'est pas ce qui nous a été montré ce soir.
Et de son côté, Johan Lecourieux accuse le groupe de faire de la démagogie.
De la pure démagogie, parce que toutes les décisions que nous passons se passent au conseil municipal. Le lancement des DSP en deux lots a été voté par le conseil municipal. L'attribution a été votée par le conseil municipal. Tous les appels d'offres se passent en conseil municipal. Donc on ne peut pas faire plus transparent. Et comme aussi tout... les PV du conseil municipal est axé au grand public, donc il n'y a pas de souci. L'opposition, notamment de Génération NC, joue beaucoup avec l'argent public et demande des baisses et des baisses, mais en l'occurrence, il n'y a pas la capacité de la ville à l'heure actuelle de pouvoir offrir ces baisses. Je rappelle que pendant le Covid, la seule commune qui avait baissé de 30% une partie de redevance était la commune de Dimbéa. Quand on peut le faire, on le fait, et quand on peut pas, on ne le fait pas.
Et le prochain conseil municipal de la ville de Dimbéa aura lieu le jeudi 13 novembre.
Toujours dans l'actualité institutionnelle, en bref, les élus de la province Nord étaient réunis ce matin. 21 textes étaient inscrits à l'ordre du jour, dont la décision modificative numéro 3 du budget, qui a été adoptée à l'unanimité et sans débat. Après cette adoption, le budget global 2025 de la province Nord se monte à près de 45 milliards de francs, 31 milliards en fonctionnement, 13 en investissement. L'ensemble des délibérations a été adopté à l'unanimité. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous irons sur le salon Batexpo, nous irons sur l'hippodrome Henri Millard pour la semaine du cheval et nous parlerons du dernier album d'Astérix.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
Chérie, tu peux ouvrir le congélateur s'il te plaît? J'ai ramené du cerf.
Non, il y a plus de place.
Attends, comment ça, il y a plus de place? Mais c'est quoi tout ça là?
Les 60 mini pains au raisin étaient à 3863 francs chez Cégel. Donc j'en ai profité.
Tu l'as dit aux enfants?
Non, pas encore, mais...
Non, dis rien du tout, on garde pour nous.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Chez Allwood, c'est le mois du deck. Kohu, Radiata, Bambou Noir, Kumaru, plus de 10 essences à découvrir. Et jusqu'au 31 octobre, pour l'achat de deck avec ses vis, le solivage est offert. Voir conditions en magasin. Allwood, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est un salon très attendu par les exposants. Batexpo a ouvert ses portes ce matin, baie de la Moselle. Il accueille le public de 9h à 17h30 aujourd'hui et demain et dimanche de 9h à 16h. Un moyen pour les professionnels du BTP de rencontrer les clients alors que le secteur est en grande souffrance, Nicolas Legrand.
Oui, une commande publique au ralenti, un investissement privé à tonnes. Le bâtiment est victime de la crise. Avant les émeutes, 6000 personnes étaient salariées dans le BTP. Aujourd'hui, ils sont moins de 4000. Un chiffre qui pourrait même atteindre 3000 d'ici la fin de l'année, soit la perte de 50% des emplois. Éric Lafitte est le coprésident de la Fédération calédonienne du BTP.
Le secteur se porte très très mal. La situation est vraiment catastrophique. Toutes les sociétés se sont restructurées. On réduit les effectifs de façon importante. Il y a une aide de l'État qui a apporté 16 milliards de travaux de reconstruction qui sont en majorité, c'est des rénovations. Mais c'est pas l'Eldorado qu'un peu certaines personnes promettaient au lendemain des émeutes en disant il va y avoir plein de travail. Non, les choses ne se reconstruisent pas. Il y a quelques réparations, des rénovations qui donnent un peu de travail à des corps d'État. C'est une très bonne chose. Et ça s'arrête là. Donc il y a eu pas mal de déconstructions aussi qui sont quasiment terminées, qui ont donné un peu d'activité. Mais vraiment, reconstruire beaucoup de bâtiments, non, le neuf est complètement à l'arrêt. Il y a quasiment rien. À cela se rajoute aussi le problème des assurances. Donc beaucoup, je vais pas m'étendre dessus, beaucoup en parler, mais des difficultés effectivement d'assurance. Pour l'instant, au niveau du secteur privé, les investisseurs sont absolument pas là parce qu'ils n'ont pas confiance à l'avenir, ce qu'ils entendent.
Et les constructeurs notamment sont sur place. Ils attendent beaucoup du salon alors que l'activité est au ralenti.
On a une grosse baisse de contacts depuis le 13 mai, mais même avant. Hein. Donc on attendait avec impatience ce salon, oui. Très important. Donc c'est là où on va toucher un maximum de clientèle. Le fait en plus qu'ils l'ont déplacé, je trouve ça pas plus mal, proche du centre-ville. On a l'impression que pour un vendredi, par rapport aux autres années, on a un peu plus de monde. On va rester positif, mais je pense que même jusqu'à la fin de l'année, ça va être encore difficile.
C'est vraiment un moment important dans l'année. Il y a moins de salons aussi, puisque le salon de l'immobilier a disparu. C'est pour ça qu'on fait des offres spéciales pendant le salon. On sent quand même un certain attentisme dans la prise de décision. Et puis aussi des situations personnelles plus fragiles au niveau des relations avec la banque et donc des dossiers qu'on souhaitait mettre en place courant 2025 qui seront sûrement reportés sur 2026 le temps que les gens stabilisent leur situation financière.
Et dans ce salon, vous retrouvez évidemment des villas, mais aussi de l'équipement et des objets de déco, des stands qui attirent le public.
Des luminaires à prix cassé, avec des suspensions en bois, avec des prix très très intéressants. Je pense que c'est la mode en ce moment. Ça marche quand même, c'est effectivement plus difficile, on est obligé de baisser les prix. On fait tous un effort, les gens font l'effort de dépenser un petit peu quand même, nous on fait l'effort de baisser les marges.
C'est de l'artisanat d'art, disons. C'est ma compagne qui est lapidaire et qui travaille les pierres locales, les bois locaux. Et qui façonne des objets de décoration pour les maisons. On retrouve toutes les pierres locales de Calédonie, donc des oiseaux, des poissons, des inclusions de nautiles et de garniérites, des lampes, des horloges, des boules, des œufs, des carottes, voilà, tout ce que l'on a l'habitude de trouver sur ces salons lapidaires.
Et ce salon Batexpo a donc ouvert ses portes à 9h ce matin. Inauguration en présence notamment de Sonia Backès, la présidente de la province sud, de Sonia Lagarde, maire de Nouméa, ou encore d'Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA. Je rappelle que le salon accueillera le public jusqu'à 17h30 aujourd'hui et de 9h à 17h30 samedi. Et puis un petit peu plus court pour le dimanche, de 9h à 16h. Et attention, c'est donc bien en baie de la Moselle.
Et sur l'hippodrome Henri Millard à Nouméa, c'est la semaine du cheval qui a débuté ce matin. Concours d'équitation, animation, spectacle sont au programme. Les pratiquants et les chevaux viennent de tout le territoire, mais aussi de plusieurs pays de la région. Ils se donnent rendez-vous donc pour cette 12e édition qui se déroule en présence de Frédéric Morand, le vice-président de la Fédération française d'équitation.
3 jours, c'est des finales territoriales. Quand on fait la semaine du cheval, on a tous les cavaliers du sud, mais aussi tous ceux du nord qui descendent, qui font un gros déplacement. Aujourd'hui, on a les premières étapes pour les amateurs. Et surtout, ce soir, on a le Royal Pacific Challenge. C'est une compétition internationale avec les nations qui, dans le Pacifique, pratiquent l'équitation. On a l'Australie qui est présente, le Vanuatu et la Polynésie, en plus de la Nouvelle-Calédonie. C'est une belle compétition qui est organisée dans le même principe que les grandes compétitions internationales au monde. C'est des preuves par équipe, avec du suspense. D'abord, tous les premiers cavaliers passent, puis tous les deuxièmes, tous les troisièmes, tous les quatrièmes. Ça, c'est un premier parcours. Et après, ils repassent une deuxième fois dans l'ordre inverse du classement provisoire. Du coup, il y a un peu de suspense. Et après, une très belle remise des prix. L'an dernier, c'est la Polynésie qui avait gagné cette épreuve.
Les compétitions commencent à partir de 11h30 aujourd'hui. Elles reprendront à 13h30 jusqu'à 22h ce soir. Quant au Royal Pacific Challenge, il commencera à 19h. L'entrée est libre et gratuite.
À Radio Rythme Bleu, 11h46.
Les plus célèbres des Gaulois sont au Portugal cette année. Le 41e album de la bande dessinée Astérix est officiellement sorti en librairie. Aujourd'hui, les lecteurs du monde entier ont pu retrouver les aventures des irréductibles Gaulois, y compris en Nouvelle-Calédonie, Charlotte.
Bem-venidos, mes amis, c'est ce qu'on peut lire au début de ce nouvel album qui suit les aventures d'Astérix et de son fidèle acolyte Obélix. Car cette année, les auteurs nous font voyager, vous l'avez compris, au Portugal, ou plutôt en Lusitanie. Partout dans le monde, les fans de la franchise ont attendu avec impatience l'ouverture des libraires et les Calédoniens n'ont pas été mis de côté. Le magasin de bande dessinée ludique à la Vallée des Colons s'est assuré d'avoir plusieurs centaines d'exemplaires pour l'ouverture des ventes à la boutique. Camille en a profité pour lire le livre en avant-première.
Toute l'équipe l'a lu parce qu'on aime tous bien, et même nos stagiaires qui sont là en ce moment, on leur fait découvrir parce que ça fait partie du patrimoine de la BD française à ne pas louper. Alors Astérix et Obélix vont partir en Lusitanie, donc l'équivalent du Portugal-Espagne moderne, on va dire, pour ce nouvel album. Donc c'est un album où on va voyager dans un pays méditerranéen avec du soleil et des clichés portugais, sinon ce n'est pas du Astérix. Et donc voilà, on va les suivre dans leurs aventures où ils vont bien sûr devoir mener la petite enquête et aller combattre les Romains et même rencontrer Jules César en Lusitanie. Mais j'étais curieuse de voir ce que donnerait le deuxième album signé Fab Caro, et du coup je suis très contente parce que je trouve qu'il réussit de mieux en mieux l'exercice, et on retrouve toujours son petit côté avec sa petite pointe, on va dire, de critique sociale mais déguisée avec du Astérix et Obélix, et c'est très très réussi.
Au-delà du plaisir de retrouver les aventures d'Astérix et Obélix, c'est aussi un gros succès de vente pour les libraires. 5 millions d'exemplaires ont été tirés pour le lancement, un record pour une bande dessinée. Les boutiques spécialisées de Nouvelle-Calédonie en profitent aussi pour redresser leurs chiffres d'affaires, comme l'explique Franck Muller, le gérant de la librairie de Michel-Ange à Nouméa.
Débarqué hier de l'avion, mis en rayon hier après-midi. Donc évidemment, on attend un succès. Bon, même si on sait que la bande dessinée, elle est en baisse depuis quelques temps. Là, ce qu'on va toucher, ça va être des collectionneurs. On va les écouler. En plus, la période, elle est, voilà, on arrive juste un peu avant les fêtes. Donc, c'est sûr, quand on a des titres comme ça, on sait que ça va booster un peu les ventes. Hein. C'est sûr que là, hier, on en a vendu pas mal hier après-midi déjà. Voilà, automatiquement, on le ressent tout de suite dans le chiffre d'affaires.
Le 41e album d'Astérix en librairie sur le territoire, c'est aussi une agréable surprise pour de nombreux lecteurs. C'était le cas de ce père venu avec son fils à Ludique qui essaie de transmettre sa passion pour la BD à ses enfants.
J'ai vu hier sur les réseaux sociaux qu'il l'avait en même temps que la sortie internationale. Du coup, ça m'a étonné. Et en venant chercher d'autres BD, je suis tombé dessus. Et du coup, je me sens obligé de le prendre aussi. Et ça nous rappelle notre enfance. Et puis, comme on a la collection depuis qu'on est jeune, on continue. Malgré que Uderzo et Cosini ne soient plus là, on continue quand même de faire la collection. Et puis, les enfants aussi prendront la suite.
Alors, du coup, tu as déjà lu des livres Astérix ?
Ouais, quelques fois.
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
En vrai, c'est pas mon style. Moi, je préfère plus les mangas.
Ah, déception du père.
Ouais, non, mais il y a le deuxième qui suit, le deuxième il aime bien. Du moment qu'il lise, en fait, c'est l'essentiel. Hein. Qu'il lise Astérix ou autre, du moment qu'il lise et qu'il sent pas le nez sur les écrans, c'est l'essentiel, je pense. Puis ils nous voient lire tous les jours aussi, ça leur donne envie aussi de faire comme leurs parents.
Astérix en Lusitanie, c'est le 41e album de la bande dessinée à retrouver dans vos librairies calédoniennes depuis hier.
11h50, une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Grande ouverture de Relook Store à Ducos. Mode pour toute la famille, hommes, femmes, enfants et bébés. Nouveau stock chaque semaine, en phase de gâchée. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Relook Store, habillez-vous malin, dépensez moins.
Retrouvez toutes les gourmandises du marché Broussard le dimanche 26 octobre de 6h à midi au marché de Boulary. Cochon cuit au four, produits du terroir, jeux pour les enfants et animé par le groupe Los Valablos, tout pour passer une excellente matinée. Le marché de Boulary, toute la richesse de la proximité. Infoline 96 07 09.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Et la suspension de la réforme des retraites est inscrite dans le projet de budget dont l'examen va débuter ce soir à l'Assemblée nationale. La lettre rectificative annoncée par le Premier ministre a été validée lors d'un conseil des ministres spécial. C'était donc l'un des engagements que Sébastien Lecornu avait pris pour éviter la censure des socialistes. Mais cette suspension va avoir un coût qu'il va falloir combler. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Qu'il faut des recettes face à ces dépenses, ce coût de la suspension de la réforme des retraites qui est évalué à 1,5 milliard d'euros pour 2026 et 2027. Et pour l'instant, cet effort supplémentaire, il est demandé aux complémentaires santé, dont le taux de contribution exceptionnel augmenterait de 0,2%. Ainsi qu'aux retraités, après le gel du taux de pension en 2026, c'est une indexation bien en dessous de l'inflation qui est proposée pour 2027. Des mesures qui ne sont pas gravées dans le marbre, a rappelé cet après-midi le Premier ministre Sébastien Lecornu.
La lettre rectificative, on le fait pour que le débat ait lieu. Donc le débat, il va avoir lieu. Alors, le gouvernement a fait une proposition. Après, ça va permettre aux différentes formations politiques de dire comment elles le financent. Donc la lettre rectificative, faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est pas la proposition définitive. C'est ce qui va permettre au débat d'avoir lieu jusqu'au bout. Désormais, la question des retraites ne pourra plus disparaître.
Une manière de mettre les oppositions devant leurs responsabilités, estime le Premier ministre, et une façon également de calmer la colère des syndicats. CGT et CFDT avaient fait part dans la journée de leur total désaccord avec les solutions proposées par cette lettre rectificative.
Et malgré ce gage, le Parti socialiste met de nouveau la pression sur l'exécutif. Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, laisse en effet planer la menace de la censure à la veille de l'arrivée du texte. Si le bloc central n'est pas capable de justice fiscale, je ne suis pas sûr qu'il sera possible de discuter de la suite, assure le chef des députés PS. De son côté, le Rassemblement national a présenté un contre-budget. Il prévoit 35 milliards d'euros d'économies, 12 milliards sur l'immigration, 8 sur la réduction des agences de l'État et autant pour la baisse de la contribution de la France à l'Union européenne. Et Marine Le Pen, chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale, répond à ceux qui lui opposent l'infaisabilité supposée de ces mesures.
Vous allez me dire que certaines mesures, je pense par exemple à la baisse de notre contribution à l'Union européenne, n'est raisonnablement pas possible. Oui, certaines mesures nécessitent une volonté politique forte, voire d'engager le bras de fer, en l'occurrence, pour cet exemple, avec l'Union européenne. Nous l'assumons et je dirais même, nous le revendiquons.
Et notez que selon un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, 76% des Français estiment qu'il faut réduire en priorité les dépenses publiques. En bref, la métropole balayée par la tempête Benjamin la nuit dernière pour nous. Des vents parfois violents ont soufflé sur le sud-est et la Corse avec des rafales mesurées jusqu'à 170 km/h. Des trombes d'eau sont aussi tombées par endroits. En Corse, un touriste allemand qui se baignait en rivière avec sa femme et ses deux enfants a été emporté par les eaux. Son corps a été retrouvé 2 heures plus tard par les secours. C'est ce qui s'appelle un coup de gueule et de colère. Le co-réalisateur du film Sacré-Cœur est pour le moins remonté. Son film raconte l'histoire des apparitions du Christ au XVIIe siècle à une religieuse, sœur Marguerite Marie Alacoque, qui a depuis été canonisée. En moins de 3 semaines, le film a totalisé 200 000 entrées. Mais hier, il a été déprogrammé au dernier moment d'une salle municipale de Marseille. Le maire de Marseille, Benoît Payan, se justifie en mettant en avant le principe de laïcité.
Les services juridiques, les avocats m'ont indiqué que ce film, s'il devait être diffusé, la ville serait dans l'illégalité. Et vous comprenez bien qu'au regard de tout ce qui est en train de se passer, moi, je tiens à respecter la loi, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas.
Une déprogrammation qui a fait très très vivement réagir le co-réalisateur Steven Guenel sur le plateau de CNews.
J'ai pété un câble hier soir, je ne me tairai plus. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on censure le christianisme en France par quel que soit le média. Voilà. Je ne me tairai plus, je ne le supporte plus, je ne le tolère plus. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'associatif, par un maire, par une campagne d'affiches qui a été refusée ou quoi que ce soit, ce n'est plus possible. Je ne supporte plus que nous soyons censurés, mis de côté, boycottés. On n'a plus le droit de parler de Noël, on n'a plus le droit de parler de Pâques, on n'a plus le droit de... C'est fini tout ça. Il y a des catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est à 200 000 entrées avec ce film, ce qui est complètement dingue pour un petit documentaire qui rivalise aujourd'hui et qui est dans la course avec DiCaprio, La Palme d'Or, Kaamelott qui sort. Il est encore dans les starts. Il fait 10 000 entrées jour en moyenne depuis 15 jours. Excusez-moi, je m'emporte un peu parce que ça me fait de la peine tout ça en fait. Ça me rend triste et ça me fait chialer d'une certaine manière. Parce qu'une fois de plus, l'amour n'est pas aimé une fois de plus. Et putain, on parle rien d'autre que ça, quoi, d'amour, quoi. Et même ça, sous le prétexte qu'on voit un Jésus, eh ben on n'en veut pas, ici ou là. C'est plus possible. Voilà.
Le film Sacré-Cœur qui est programmé depuis mercredi dernier au Ciné-City. Il est 11h56, la dernière pause avant de retrouver toute l'actualité sportive et ensuite ce sera le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie vous invite au salon BAT Expo et Plus du 24 au 26 octobre à la baie de la Moselle. Un événement dédié aux professionnels et au grand public autour du bâtiment, de l'habitation et de la décoration. Vendredi et samedi de 9h à 17h30 et dimanche jusqu'à 16h. BAT Expo et Plus, un salon incontournable pour construire, rénover et décorer sa maison.
Vendredi 24 octobre, venez soutenir les candidats de la grande finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa. La parole est à toi.
Ils auront chacun 5 minutes pour vous surprendre, vous faire rire, vous émouvoir sur un thème de leur choix. Une soirée dédiée à l'expression orale, sous toutes ses formes. Une soirée où la jeunesse prend la parole.
Vivez la finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa, le vendredi 24 octobre à 19h, dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour une participation citoyenne au sein de notre Assemblée, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vous donne rendez-vous pour échanger sur les conclusions de son étude. Imaginons ensemble la démocratie participative au Congrès. Plus de 1000 Calédoniens ont été consultés. Mercredi 29 octobre de 18h à 20h dans l'hémicycle du boulevard Vauban, entrée libre. Plus d'infos sur congrès.nc.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, Jean-François Baudin.
Et d'abord le football et la suite des coupes européennes ce matin. Lionel Sabot, 4 clubs français étaient engagés en Europa League et en Ligue Conférence.
En Europa League pour commencer, Lyon s'est imposé 2-0 sur les Suisses du FC Bâle. Troisième victoire de rang pour les Lyonnais dans cette compétition européenne. En revanche, défaite pour Lille et Nice. Les Niçois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Celta Vigo. Lille, de son côté, a été battue au terme d'un match un peu foufou. 4-3 devant son public par le PAOK Salonique. Notez que le gardien de Lille, Hauser, en une nouvelle fois arrêté un pénalty. Vous en souvenez, lors du dernier match, il avait sorti 3 pénaltys. Enfin, en Ligue Conférence, Strasbourg et les Polonais de Białystok ont fait match nul, 1-1 partout. Si vous êtes amateur de football ou tout simplement par curiosité, allez voir sur Internet le but égalisateur des Strasbourgeois. Retournée acrobatique de l'Argentin Joaquin Panicilli, un vrai petit bonbon.
Voilà, bah alors, c'est fini parce que vous avez donné tous les résultats.
Oui.
Bon, bah on va parler cyclisme alors maintenant parce que le parcours du Tour de France édition 2026 a été dévoilé hier soir pour nous et les coureurs partiront cette année de Barcelone. Ils arriveront évidemment 3 semaines plus tard à Paris.
Une grande boucle 2026 qui sera longue de 3333 km. Le départ de Barcelone le 4 juillet 2026 marquera le 27e départ du Tour de France depuis l'étranger, le 3e depuis l'Espagne après San Sébastien, c'était en 1992 et Bilbao en 2000. 2023. L'année 2026 sera marquée par le nombre d'étapes en montagne. Sur les 21 étapes de la 113e édition de cette grande boucle, il y aura 8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude. Écoutez à ce sujet, Christian Prudhomme, c'est le directeur du Tour de France.
C'est un parcours en tout cas qui va aller crescendo. C'est-à-dire que c'est un parcours qui est fait pour que quel que soit le maillot jaune, quel que soit le leader, quel que soit son avance à 48 heures de l'arrivée, il ne puisse pas dire « j'ai gagné ». On passera par les 5 massifs montagneux de la France, de l'Hexagone, les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Mais 3 des 5 arrivées en altitude sont dans les tout derniers jours du Tour de France, avec notamment 2 arrivées au sommet successives à l'Alpe d'Huez, le vendredi et le samedi. 2 étapes sur des formats différents, une étape hyper ramassée de Gap à l'Alpe d'Huez par la montée classique, et une autre plus longue avec la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier, la montée de l'Alpe d'Huez par le col de Sarenne. Ce sera la première fois en montée, 2013 c'était en descente, avec aussi un très gros contraste entre la ferveur, l'enthousiasme, la folie, le bruit des 21 virages, et d'un seul coup le silence de Sarenne. Le samedi, il y aura le bruit, jusqu'au pied de la montée de Sarenne, jusqu'au barrage du Chambon, Misouin, et ensuite il y aura du silence, et à nouveau le bruit, l'enthousiasme, la folie pour l'arrivée. Donc ça va être quelque chose de fort, sans aucun doute.
Et ce double passage par l'Alpe d'Huez à 48 heures de l'arrivée à Paris fait déjà rêver évidemment les grimpeurs du peloton. Écoutez Valentin Paré-Peintre de la formation Soudal Quickstep, qui après le Ventoux cette année se verrait bien lever les bras sur la ligne à l'Alpe d'Huez.
On aura deux chances d'ajouter l'Alpe d'Huez à son palmarès, et c'est vrai que je pense que ça fait bien sur un palmarès de gagner au Mont Ventoux et à l'Alpe d'Huez, donc c'est sûr que j'essaierai.
Les 3 derniers jours du Tour de France 2026 s'annoncent juste magiques, puisqu'en plus des 2 étapes à Huez, les coureurs, après une première réussie cette année, retrouveront la butte Montmartre à Paris, avec cette fois-ci une triple ascension à de la rue Le Pic. Vivement le 4 juillet 2026 pour le départ de cette grande boucle.
Oui, on se régale à l'avance. On va terminer par un mot de natation. Maxime Grousset a brillé en ouverture des championnats de France de natation en petit bassin à Taverny, dans le Val d'Oise. Le triple champion du monde, tête d'affiche de la compétition en l'absence de Léon Marchand, s'est d'abord imposé sur l'une des courses de ses courses de prédilection, le 100 mètres papillon. Parti prudemment, il s'est imposé en 48 secondes 87 avec une avance de plus d'une seconde sur son dauphin Clément Cecchi. Le Calédonien s'est également offert le titre sur 100 mètres 4 nages où il a battu son propre record personnel en 50 secondes 56.